10h40 minutes ben pile. Et à cette heure-là, depuis le début de la semaine et pour la prochaine semaine encore, on a l'habitude de rejoindre au bout du fil l'ami Georges Mercier, analyste politique. Georges Mercier, bonjour.
Salut Max.
On est quand même chanceux cette semaine en termes d'actualité politique. Ça bouge beaucoup. Puis un petit peu plus tôt dans le show, je regardais la TV, on est branché sur LCN. Je voyais Éric Duhaime faire une annonce. Puis là, on dirait que ça n'arrête pas. Souvent, LCN n'a pas le choix de faire du split screen avec deux, trois écrans parce que là, Paul Saint-Pierre Plamondon est d'un bord. Puis là, Québec solidaire ou la CAQ d'un bord. Éric Duhaime fait une annonce. On est encore à quelques semaines de la campagne électorale. Puis déjà, on dirait vraiment qu'on est en plein dedans.
Ouais, je pense qu'il faut qu'on arrête de faire la distinction entre pré-campagne, campagne électorale. Là. Quand à chaque jour, quasiment, les partis politiques nous présentent des candidats, prennent des engagements de campagne, je pense pas parce qu'il n'y a pas les panneaux sur les poteaux qu'on n'est pas en campagne électorale. Là. Elle est commencée, notre campagne.
Et le fait que cette campagne-là soit commencée fait un petit peu partie du premier sujet qu'on va aborder ensemble parce que il y en a qui se questionnent sur la légitimité pour le gouvernement du Québec et Christine Fréchette de s'entendre avec Terre-Neuve sur l'énergie hydroélectrique de Churchill Falls. Ton take là-dessus, c'est quoi? Est-ce que Christine Fréchette a la légitimité de s'entendre? Puis de ce qu'on comprend, des modalités qui commencent à fuiter un petit peu. Est-ce que c'est une bonne affaire pour le Québec?
Ben écoute, je pense qu'il faut quand même distinguer deux choses. Disons, la légitimité formelle. Est-ce qu'elle a le droit, selon nos lois et nos institutions, de faire ce qu'elle fait? La légitimité morale. Est-ce qu'elle devrait le faire si elle répondait aux idéaux les plus nobles? Parce que formellement, Christine Fréchette est la première ministre du Québec. Elle est à la tête d'un gouvernement majoritaire. Elle a le droit de signer des ententes. C'est pas parce qu'on est à quelques semaines d'une élection qu'elle perdrait son pouvoir décisionnel en tant que première ministre. Donc, dire qu'elle est illégitime, c'est un peu fort de café. Après, est-ce que c'est moral et éthique pour une première ministre qui, chances are, Max, va perdre le pouvoir dans quelques semaines, d'engager le Québec pour plusieurs décennies? Ben là, il y a une méchante question qui se pose. Et là, moi, je suis pas du tout certain que c'était une bonne chose qu'elle ait passé cette entente-là aussi près des élections. D'autant plus que ce qu'on apprend dans les différents reportages, c'est que la raison pour laquelle on voulait tant le faire, c'était parce qu'on craignait du côté de Terre-Neuve et Labrador que l'élection du Parti québécois amène au pouvoir un gouvernement qui aurait peut-être eu des demandes plus fortes envers Churchill Falls, qui n'aurait pas fait les concessions qu'on aurait fait dans l'entente. Bon, on n'a pas beaucoup de détails, ça l'a dit, sur cette entente-là. Et notamment, qui n'aurait peut-être pas aussi bien travaillé avec le gouvernement fédéral. Parce que ce qu'on apprend, c'est que le fédéral aurait mis beaucoup, beaucoup de poids pour que l'entente se concrétise et soit finalisée. Donc, si du côté de la CAQ, là, ce qu'on a fait, finalement, c'est rusher une entente pour empêcher le Parti québécois de la renégocier ou de prendre une position qui, le PQ étant le PQ, aurait peut-être été à terme plus favorable aux intérêts des Québécois, mais là, il y a quand même un enjeu moral. Donc, je sais pas si comment Christine Fréchette va vivre avec ce legs-là, mais il y a une vraie question aussi.
On jasait ce matin avec Pascal Paradis, puis il n'a pas voulu s'avancer outre mesure par rapport à un engagement du PQ sur, est-ce qu'on va se lancer dans une bataille judiciaire pour reculer sur le deal quand il sera potentiellement conclu, là, à voir en début de semaine prochaine. Mais as-tu l'impression qu'un gouvernement du Parti québécois, s'il prend le pouvoir, se lancerait dans ce genre de bataille-là qui risque d'être terrible au niveau judiciaire? Là, ça risque de tirer bien du jus à tout le monde?
Ah oui, mais je ne sais pas si on va avoir envie de faire de ça une priorité, d'autant plus que l'attente dont on parle, elle profite quand même au Québec. On a besoin d'énergie à bas prix. On va produire plus d'énergie que ce qui était prévu. On compte produire plus d'énergie que ce qui était prévu dans l'entente initiale de François Legault. Donc, c'est pas 100% négatif pour nous. C'est une question de pondération. Est-ce qu'on est allé chercher, c'est une question de proportion, est-ce qu'on est allé chercher tout ce qu'on pouvait aller chercher? Et si on juge que c'est pas le cas, est-ce qu'on veut engager une bataille juridique pour revenir sur une décision du gouvernement québécois, comme l'avait fait d'ailleurs le gouvernement en Labrador par rapport à l'entente de principe avec François Legault? Ça, c'est pas clair du tout. Mais néanmoins, il y a une vraie question ici par rapport à Churchill Falls, c'est que C'est Hydro-Québec qui avait pris le risque dans les années 60. C'est nous qui l'avons construit, cette centrale-là. Peut-être que les gens du Labrador peuvent être fâchés de ne pas avoir signé un bon deal. Ils ont tenté de la contester devant les tribunaux à de nombreuses reprises, 14 fois, si je ne m'abuse. Les tribunaux ne leur ont jamais donné raison. Donc, il y a un moment où je comprends qu'on veut être fin avec les gens du Labrador, mais au final, c'est notre expertise, et ce sera encore notre expertise, ça va être celle d'Hydro-Québec, qui les aidera à atteindre leur ambition énergétique. Donc, je sais pas à quel point on a intérêt à leur faire des concessions. Puis là, ce qu'il faut dire par rapport à ça, Max, là, c'est qu'il y a quand même une part non négligeable de Canadiens anglais qui n'appréciaient pas du tout le fait que, pour une fois, c'était les méchants Canadiens français qui... sinon profitaient, mais qui au moins les mettaient dans une situation d'infériorité par rapport à ça.
Charles Milliard, qui le chef du Parti libéral du Québec, demande à la CAQ de dévoiler l'entente complète. C'est comme ça qu'il est sorti ce matin. Mais dans son message, il précise ne pas endosser les propos de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui crie déjà à l'illégitimité, pour citer M. Milliard. Si moi, il se place encore de façon pas claire, comme il fait depuis le début, depuis que Pierre chef libéral.
Oui, mais c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut, Charles Milliard. Son problème, la position de Milliard, elle est compliquée. Parce que le Parti libéral du Québec, surtout le Parti libéral du Québec, aujourd'hui, un parti qui doit sa survie à des circonscriptions anglophones où vous avez une population qui s'identifie spontanément comme canadienne davantage que comme québécoise, c'est que dès qu'il veut défendre les intérêts propres du Québec, ben, je pense qu'il reçoit des coups de téléphone pour lui dire « Attention, Charles, il ne faut pas que tu nous oublies, nous. » Ou au contraire, « Be careful, Charles, don't forget about us. » Right? Bon. Donc, il y a ça l'enjeu ici. C'est pour ça qu'il a toujours l'air d'être assis entre deux chaises et qu'il n'est pas capable d'être clair parce qu'il est tiraillé, parce que son parti lui-même est tiraillé. Cela étant dit, sur le fond, il a 100% raison. Hein. La CAQ devrait dévoiler dès maintenant le contenu de l'entente. Et là, on verra quelle sera la réaction publique au Québec. Et s'il s'avérait qu'on n'était vraiment pas d'accord, donc il y avait vraiment une perception populaire de désavantage, d'injustice par rapport à l'entente, la CAQ ne devrait pas la signer avant l'élection. Okay? Donc oui, je suis d'accord avec Milliard sur le fait qu'il faut qu'on la voie. Parce qu'encore une fois, c'est difficile d'en parler en n'ayant pas tous les détails.
Le Parti québécois qui a dévoilé hier son plan environnement avec notamment une base universelle à 95$ par mois qui pourra être utilisée dans toutes les sociétés de transport sur le territoire québécois. Est-ce que tu aimes généralement ce qu'on retrouve dans les propositions du PQ dévoilé hier?
Ben, écoute, ce qui est certain par rapport à cette passe-là à 95$ par mois, c'est que ça pourrait simplifier les choses. Tout le monde est pour la tarte aux pommes, ce serait plus simple. Bon, moi, j'habite à Montréal. Entre Longueuil et Montréal, parfois, il faut changer de titre. C'est super compliqué. Puis là, si on s'en va à Saint-Jérôme, bon, voilà. Tu vois, c'est compliqué de gérer nos propres abonnements au système de transport en commun. Donc, on peut louer la volonté de simplification. Cela étant dit, la question que ça pose, c'est quoi le vrai problème pour le transport en commun? Est-ce que c'est le coût? C'est vrai que ça peut coûter très cher parfois pour un abonnement mensuel, ou c'est simplement la qualité des services? Et moi, j'ai tendance à penser que la raison pour laquelle il n'y a pas plus de gens qui le prennent, le transport en commun, c'est parce que l'offre n'est pas au rendez-vous. Et là, la mesure du PQ, c'est le genre de choses qui coûterait très, 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 très cher. Et ces millions, voire ces centaines de millions de dollars-là, ne serions-nous pas mieux de les mettre dans des investissements sur de meilleures infrastructures? Je donne un exemple là-dessus, Max. Tu sais, moi, j'ai habité longtemps à Paris, puis j'y vais encore souvent. Quand t'es à Paris, là, et là, je le dis sans rire, là, il faut être con parfois pour prendre la voiture, parce que c'est tellement plus efficace en métro, en RER, en autobus ou en tramway. C'est vers ça qu'on devrait se diriger par rapport au transport en commun. C'est avoir un système qui est tellement performant, tellement efficace, que c'est irrationnel de prendre la voiture. C'est pas en réduisant le coût mensuel du transport qu'on va se diriger vers ça. Donc, je ne sais pas si c'est le bon investissement à faire ici, mais à nouveau, simplifier les choses, c'est jamais une mauvaise chose.
Mais c'est drôle, Georges, par contre, que tu parles de simplifier les choses, parce que moi, je l'ai vu dans le sens contraire. Je me suis dit, hey, Simonac, que ça va être compliqué, parce que à base, toutes les villes ont leur propre application, ou presque, puis là, ça va falloir que, d'après moi, comment ça va falloir que ça marche, c'est que tu vas payer tes affaires, puis il va falloir t'envoyer des demandes de remboursement de temps, puis là, t'es allé là, fait que là, toi, t'avais déjà payé, mettons, pour le RTC à Québec, mais là, tu vas à Montréal, puis t'as pris deux fois le métro, va falloir t'envoyer des demandes de remboursement, parce que tout le monde marche pas de la même affaire. Je pense qu'à Montréal, puis à Québec, je pense que c'est pas arrivé encore, à Montréal, vous commencez à pouvoir entrer, mettons, dans l'autobus, puis payer avec un PayPass de cellulaire, là. On est tellement loin par rapport à où on devrait être avec la technologie aujourd'hui que, pour moi, ce serait pas plus simple, ça serait un méchant chiard à instaurer.
Oui, mais ça, je pense qu'il faut quand même distinguer la mise en application du résultat final. Si au final, on pouvait se retrouver avec une seule application à travers le Québec, une seule passe, un seul
Le
type
rêve.
d'étiquette, ce serait extraordinaire. Parce que là, quand même, on pourrait d'ailleurs renvoyer des fonctionnaires. Hein, à ce niveau-là, on aurait besoin de moins de monde pour gérer toute la patente. On n'aurait pas toutes ces applications-là dont tu parles, on n'aurait pas tous ces systèmes-là. Donc, à terme, ça me semble tout à fait désirable qu'on ait quelque chose comme Transport Québec, une passe, c'est réglé, on passe à autre chose. Tu sais, ça, c'est un gros débat avec les conservateurs, souvent sur l'aide sociale. Il y a des gens qui disent, plutôt qu'avoir des allocations ciblées, allocations famille, bien-être social, crédit d'impôt, on pourrait avoir un seul chèque qu'on distribuerait à tout le monde, ce qu'on appelle le revenu minimal garanti, là, qui serait plus simple parce que ça limiterait le nombre de fonctionnaires nécessaires. Donc, à ce niveau-là, moi, je suis plutôt d'accord. Après, je suis certain que la mise en œuvre serait compliquée. Puis là, il y aurait des chicanes de famille, chicanes de chapelle entre les différentes organisations de transport en commun qui voudraient tous garder leur petit pouvoir. Ce serait tough à mettre en œuvre, mais voilà, à terme, je pense que c'est une bonne chose.
Je veux pas te prendre de court, Georges, mais dans les dernières minutes, le Parti conservateur du Québec a comme fait sa première grande annonce économique. Puis, bon, grossièrement, là, on est dans tout ce qui est coupe dans les dépenses, les subventions aux entreprises. On veut amener l'intelligence artificielle dans l'État. Puis on dit que ça peut faire économiser 47 milliards à l'État sur une période de 5 ans. Ça, c'est exactement ce que les conservateurs doivent faire pour gagner des votes. C'est aller à fond dans ce dégraissement-là de l'État. Je me trompe pas?
Ouais, bon, le problème du Parti conservateur, c'est quand même un parti qui n'a jamais été au pouvoir, là. C'est facile de faire des propositions aux électeurs, c'est facile de faire miroiter des grandes économies quand on n'a pas eu à s'asseoir au secrétariat du Conseil du Trésor puis la gérer, la fonction publique. Donc, il va quand même falloir faire attention aux chiffres et aux économies qu'on nous annonce. Cela étant dit, sur le rôle de l'IA dans la fonction publique, là, expérience très personnelle. Moi, j'ai travaillé pendant un an dans un grand organisme public, là. Il y a beaucoup, beaucoup de tâches qui me prenait du temps à l'époque, que je peux faire beaucoup plus rapidement aujourd'hui. Je suis persuadé qu'il y a de l'optimisation à aller faire là-bas, qu'on pourrait à terme renvoyer des fonctionnaires ou limiter le besoin de fonctionnaires grâce à l'intelligence artificielle juste pour faire des affaires super niaiseux comme écrire des rapports, trouver des enjeux, faire des formulaires de risque, plein de tâches ultra chronophages qu'on fait en ce moment, qu'on pourrait grandement faciliter. Donc, il y a une intuition là au niveau du Parti conservateur, mais juste mise en garde parce qu'on rentre dans une campagne, là on va être inondé de chiffres et de promesses. C'est pas tous les exercices qui se valent à ce niveau-là. Donc, parfois, les prendre avec des pincettes. Mais sur le principe, bien entendu qu'il y a des gains à faire et c'est effectivement le type de discours que le Parti conservateur va devoir mettre de l'avant. Après, le problème du PCQ, c'est de prouver aux Québécois qu'on peut couper dans les coûts sans pour autant couper dans les services rendus à la population. Puis, il est là le gros enjeu.
Bon, ben là, on va passer d'un parti de droite qui va pouvoir lancer des idées au courant de la campagne sans avoir à se soucier de prendre le pouvoir à un parti de gauche qui va pouvoir lancer des idées tout au long de la campagne sans avoir à se soucier de prendre le pouvoir. Québec solidaire qui propose la création d'un réseau d'épiceries publiques. Il y en aurait une quinzaine au Québec. Bon, on s'entend QS prendra pas le pouvoir, mais est-ce que dans cette idée-là, il y a quand même quelque chose dont certains autres partis pourraient s'inspirer ou on est vraiment dans des lubies de gauche de Québec solidaire puis c'est une idée qu'on peut prendre puis ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre?
Mais moi, ce que je trouve intéressant par rapport à cette nouvelle-là, c'est qu'il y a quand même une volonté chez QS de revenir à des enjeux électoraux de la gauche plus proche du quotidien des gens. C'est le coût de la vie, le logement, la santé. Puis on a comme une gauche qui commence à se recentrer vers des enjeux plus payants que ce qu'on a connu dans les années 2020, où là on parlait d'identité, de race, de LGBTQ+, c'est plein d'enjeux électoraux qui valaient rien finalement, puis qui conduisaient la gauche, pas juste au Québec, hein, mais partout en Occident, à systématiquement perdre. Donc que QS fasse des propositions économiques comme ça, ça me semble un bon signe pour le type de gauche que veut incarner QS. Maintenant, sur le principe, il y a de graves problèmes au Québec avec le coût de l'alimentation. On sait qu'il n'y a pas assez de compétition, qu'il n'y a pas assez de joueurs sur le marché, qu'on paye plus cher pour notre épicerie qu'aux États-Unis, qu'en Europe, sur une panoplie de produits. Donc, il y a des choses à faire ici. Est-ce qu'avoir des épiceries publiques, ce serait une manière, si c'était bien fait, d'injecter un peu de compétition artificielle dans le domaine alimentaire? Peut-être. Mais encore une fois, c'est une question de détail puis de mise en place. C'est comment on fait ces choses-là. On sait, par exemple, qu'on l'a essayé aux États-Unis, ça n'a pas toujours fonctionné. Est-ce que QS s'inspirait de Zoran Mamdani, ce fameux maire de New York, qui lui aussi veut des épiceries publiques? Peut-être. Mais je reviens à ce que je disais. Il y a vraiment un truc ici, là, d'avoir une gauche plus économique, plus concrète, qui parle à nouveau aux difficultés des électeurs. Et ça me semble intéressant. Puis une forme de responsabilité puis une maturité de la part de QS. On a peut-être justement fait notre examen de conscience puis on décide de laisser en arrière des enjeux qui, eux, ne fonctionnaient pas très, très bien.
On a reçu un texto au 88-971-1021. Je comprends pas trop leur système pour l'alimentation. Le Costco n'est pas trop similaire à leur idée face à la façon. C'est moi qui comprends rien. En fait, c'est que le plan de QS, c'est vraiment de dire, ben nous, en tant que gouvernement, on pourrait acheter en très grande quantité, puis ça nous permettrait de redonner à la population des produits qu'on a achetés à des prix qui sont meilleurs parce que nous, comme gouvernement, on a acheté en grande quantité. C'est pas ce qu'on va revendre à la population, du moins de ma compréhension, qui va être en quantité de format Costco. Là. C'est vraiment sur les achats du gouvernement où on pense économiser, c'est ça?
Mais tu sais, c'est un peu comme la SAQ. Ça va te faire sourire parce qu'il y a beaucoup de critiques contre la SAQ. Mais sur certains grands vins, ça coûte moins cher de les acheter au Québec que de les acheter en France, par exemple. Parce que le pouvoir d'achat de la SAQ est tellement important qui peuvent avoir des meilleurs deals. Je pense que c'est une dynamique comme ça que QS a en tête. Évidemment, je ne pense pas que l'État québécois voudrait faire une genre de société de l'alimentation du Québec, là, une nouvelle SAQ finalement, et que l'idée serait de générer des profits. L'idée, ce serait de combler des lacunes dans le marché actuel où il y a plusieurs biens alimentaires qui coûtent trop cher. Puis on devrait pouvoir le dire, ça, que ça coûte trop cher. On sait qu'il y a de la coordination entre les grandes chaînes, entre Métro et Géal, Loblaws, sur les prix qu'on fixe peut-être pas, mais en tout cas, les prix qu'on donne aux consommateurs. Ce serait ça l'idée du côté de QS. Mais là, encore une fois, ça va être vrai pour toutes les promesses de campagne de QS. C'est comment on l'opérationnalise dans le détail, comment est-ce qu'on passe de l'idéal à une proposition concrète qui peut être crédible et convaincante.
Pour finir, Georges, les responsables du Canada dans les négociations avec les États-Unis qui ne seraient pas satisfaits de la dernière offre américaine, selon des sources de CBC News. Je lisais aussi ce matin dans le Globe and Mail que le Canada étudierait une proposition prévoyant des droits de douane réduits là, qui iraient de 10-15% sur les automobiles. Là, on veut arriver à un deal d'ici, c'est lundi, pour laisser un peu de temps à Trump en espérant qu'il repousse au moins ou qu'il annule les droits de douane supplémentaires de 50%.
Ça n'existe pas, là?
Ouais, c'est ça. As-tu l'impression qu'on va être en mesure de s'entendre d'ici lundi ou là, dans les négos, on dirait que cette semaine, c'est trop tough, puis ça va être dur d'y arriver?
Tu veux une interprétation super cynique, Max? Peut-être qu'on se dirige vers une mauvaise entente. Puis toutes ces informations-là qui fuitent, là, quelqu'un veut les faire fuiter. Peut-être qu'on prépare l'entente qui pourrait être sévèrement critiquée. Mais là, en disant on n'est pas confiant pour l'instant, ben, on pourrait laisser miroiter à la population québécoise québécoise et canadienne, qu'on a tenu notre bout. Il y a eu une première mouture qui ne nous a pas satisfait. Celle-ci peut nous satisfaire. Donc, on a réussi à obtenir quelque chose par rapport à une première ébauche. On verra, mais c'était pas très, très astucieux de la part du Canada de laisser entendre qu'on voulait y aller très, très, très rapidement, parce que ça fait monter les enchères. Puis ça, le gouvernement Carney l'a déjà fait depuis son arrivée au pouvoir, là. Il faut arrêter de laisser croire à la population que quelque chose s'en vient, puis après rétro-pédaler et dire ça ne s'en vient pas. Donc, on verra si on nous annonce quelque chose dans les prochains jours. Moi, je prends à faire un pari avec toi, Max, que entente, pas entente, ces fameux droits de douane additionnels de 50%-là, la Maison-Blanche, les États-Unis vont trouver une manière de les repousser, comme ils font pas mal avec toutes leurs grosses menaces. Je suis conscient qu'il y a des droits importants qui sont en vigueur aujourd'hui et qui font mal à nos industries. Mais néanmoins, plus la menace était grosse, en général, moins elle a été mise en application.
Georges, merci, analyste politique. Un gros merci. Puis on se reparle demain, 10h40.
À demain, Max.
Salut mon ami Georges, merci. Au retour de la pause, ben, il va être un petit peu passé 11h, puis ça, ce que ça veut dire, c'est qu'Audrey Pinchot sera en studio pour l'Open Mic. Vous écoutez le Point de Max à Boulevard 102.1. 88-971-1021, c'est le numéro pour nous rejoindre en studio par texto. Pour nous écouter, ben, bien sûr, il y a le 102.1, il y a aussi l'application mobile Boulevard 102.1 et le blvd.fm. On revient.